Bonjour. Donc, après une interruption de 2 semaines, je reprends le cours là où je l'avais laissé, c'est-à-dire avec l'époque des Ephthalites, le grand empire qui a immédiatement précédé, pendant un siècle, le premier empire turc qui s'établit à partir du milieu du 7e siècle. Alors, j'avais parlé donc de l'image qu'ont laissé les Ephthalites dans la littérature, d'abord chinoise et bouddhique, les horreurs qu'on leur attribue, et qui ne sont pas vraiment prouvées, les horreurs qu'on leur attribue en Inde, les destructions massives de villes, l'anéantissement total du bouddhisme, etc. Horreurs qui, comme je l'ai montré, ne semblent pas étayées par les résultats des enquêtes archéologiques. Et il faut tenir compte de ce que dans l'écriture des sources bouddhiques qui nous parlent des Ephthalites, il y a l'idée que durant ces siècles-là, le monde est entré dans le Kali Yuga, plutôt à la fin du Kali Yuga, c'est-à-dire la quatrième des grandes époques qui rythment l'histoire du monde avant la combustion générale, et que la fin du Kali Yuga est inévitablement marquée par des catastrophes, lesquelles ne peuvent être que d'ampleur cosmique. Donc, quand on nous dit que Mihirakula, dont voici ici le sympathique profil, a fait tuer 30 millions de personnes en Inde, il faut bien se dire qu'on est beaucoup plus proche d'une pensée apocalyptique cosmique que de souvenirs authentiques de cette époque qui a dû quand même être dure. Bon, on ne peut pas le nier, on ne le niera pas. Alors, on a parlé des Ephthalites en Inde, où ils sont arrivés très tôt, dès le moment où ils ont commencé à se constituer en empire. Maintenant, on va parler d'eux en Asie centrale, d'où ils sortaient. Le premier endroit où on les saisit, c'est, semble-t-il, à l'est de la Bactriane, vers 357. Alors, sur l'Asie centrale, on n'a aucun récit ni aucune documentation archéologique qui nous permet, de manière certaine, d'attribuer des déprédations aux Ephthalites. Il n'y a pas de traces de siège, ou plutôt, oui, des traces de siège des incendies, on en trouve dans les fouilles urbaines, mais je serai amené à en parler dans la suite du cours. Les chronologies archéologiques sont, pour ces époques, beaucoup trop lâches pour qu'on puisse rapporter véritablement tel épisode telle destruction archéologique à tel ou tel événement connu par des sources écrites. Les Chinois parlent des Ephthalites en Asie centrale, mais en fait, ils enregistrent simplement la constitution de leur empire. Ils ne parlent pas de massacre, ils ne parlent pas de siège, etc. Alors, ce qu'on a en revanche, c'est quelque chose qui parle un peu dans le sens contraire, c'est-à-dire des indications qui viennent de Sogdiane, qui montrent que, à ces époques, dès avant les Ephthalites, à l'époque Kidarite, du 5e siècle, il semble y avoir eu une assimilation rapide des vagues successives de nouveaux venus dans la classe dirigeante. C'est avéré dès la période Kidarite, dont j'ai parlé la dernière fois, et ça se poursuit à la période Ephthalite. La source principale documentaire pour permettre de faire ce constat, ce sont les inscriptions, les graffitis qu'on a retrouvés dans les années 80-90 sur le Haut Indus, près de passages sur le fleuve qu'empruntaient des marchands venus d'Asie centrale. Et on a toute une grande quantité d'inscriptions, la plupart en sogdien, certaines en bactrien, certaines aussi dans des langues indiennes locales. Beaucoup d'inscriptions laissées, donc beaucoup ont été laissées par des marchands qui disent eux-mêmes venir de Samarcande, de la Sogdiane, etc. Ces gens-là, enfin, ces inscriptions sont généralement très brèves, nous donnent le nom du bonhomme, le nom de son père, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça nous donne un très gros stock onomastique et on s'aperçoit qu'à cette époque, le tiers des gens, le tiers des marchands ou des envoyés qui laissent leur nom sur les rochers du Haut-Indus s'appelle Hun, Hun, Monsieur Hun. Donc c'est un nom qui a été intégré à l'onomastique locale. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on a 16 personnages qui s'appellent Hun, fils de quelqu'un qui porte un nom sogdien, un nom sogdien traditionnel. C'est-à-dire que on voit que des gens d'origine apparemment locale sogdienne n'hésitent pas à appeler leur fils Hun, ce qui semblerait quand même indiquer que le nom est entouré d'un certain prestige. Ce sont les nouveaux maîtres du pays. On peut penser, ces indices font penser à une assimilation rapide des nouveaux conquérants à la classe dirigeante, y compris la classe marchande. Un autre indice d'acculturation rapide, c'est qu'on ne voit pas à cette époque, contrairement aux époques d'invasion nomade de l'Antiquité, on ne voit pas apparaître de nécropoles nomades dans les environs, dans les périphéries des oasis. On a des nécropoles qui n'ont pas été fouillées, mais qui sont probablement d'époque heftalite, au sud, en Bactriane orientale, c'est-à-dire la région d'où ils sont sortis, où ils se sont constitués en tant qu'État. Mais dans des régions qu'ils ont conquises à un stade plus avancé de leur développement historique, il ne semble pas qu'ils aient créé de grandes nécropoles. Il y a des sépultures isolées, mais hein, ils n'ont pas créé de grandes nécropoles selon leur mode ancestral. Alors, on a un document iconographique, malheureusement pas bien conservé, enfin, plutôt assez confus, quand on le regarde bien, semble montrer cette nouvelle aristocratie, que je dirais donc d'origine mélangée, à Samarcande, ces gens-là participant à une chasse. Alors, vous voyez, en voilà un avec son cheval, en voilà un autre, en voilà un autre. Dans ce qui semble bien être la réserve de chasse traditionnelle des rois de Samarcande, c'est-à-dire ce qu'on appelle en persan un paradis. Pourquoi je dis ça? C'est parce que cette peinture a été retrouvée dans la cella, dans l'endroit le plus prestigieux, d'un temple à l'est de Samarcande, 30 km à l'est de Samarcande, s'appelle Djar Tepe, où certains d'entre vous sont peut-être allés, il reste très bien conservé. Et ce temple se trouvait justement dans une zone de jungle dont on sait traditionnellement que c'était là que venaient chasser les émirs de Boukhara, etc., etc. Et on a pu, Paul Bernard avait pu prouver il y a quelques années que l'endroit où Alexandre a chassé dans un parc de chasse près de Samarcande et où il a failli être tué par, nous dit-on, un lion, je pense qu'en fait c'était plutôt un tigre, se trouvait tout près de là. Donc c'est visiblement le thème de ces peintures. Alors en bas, vous les voyez qui chassent. Alors là voilà une panthère, vous voyez. Là voilà un mouflon. Là voilà des gazelles, des antilopes. On va dire des gazelles, plutôt des cervidés. Oui, là, il a des cornes. Donc, plutôt des cervidés. C'est ce qu'on appelle la gazelle de Boukhara. Bon. Et au-dessus, on a une scène cultuelle où des gens viennent apporter des offrandes à quelque chose qui semble bien être ici un couple divin. Voilà. Un dieu, une, enfin, un dieu, une déesse, semble-t-il. Alors, bon, c'est très, très mal conservé, ou plutôt très mal dessiné, mais ici, en regardant, avec un peu d'imagination, vous pouvez voir des pattes de lion. Il y a un autre endroit, alors là, je n'arrive, j'avoue que je les ai vus à l'époque. Ah, voilà, ici aussi. Voilà, on voit bien ici, hein, les pattes de lion. Donc, en fait, il y aurait quatre divinités, peut-être. Divinité sur un trône à support de lion, ça rappelle la, la grande déesse Nana, grande déesse de la déesse principale de la Sogdienne, déesse de la fécondité, mais une déesse qui également est une déesse guerrière. Enfin, c'est une déesse qui a un petit peu toutes les fonctions, qui a attrapé celle de l'ancienne déesse zoroastrienne Anahita. Elle a un compagnon qui est Tishtria, le dieu de la pluie, et il semblerait que, dans certains contextes, il fonctionne comme pourvoyeur de l'abondance du gibier, ce qui pourrait expliquer, enfin, ce qui, selon mon interprétation, explique la scène du dessous. En fait, le message de ces peintures, c'est « Nous apportons des offrandes aux statues d'Anahita et Tishtria, notamment pour avoir le succès à la chasse. » Alors, bon, cette peinture est tout à fait remarquable parce que c'est probablement la plus ancienne peinture sogdienne que nous avons. Elle semblerait dater plutôt du début du 5e siècle, première moitié du 5e siècle. C'est-à-dire qu'on est dès avant les Eftalites. C'est peut-être encore l'époque Kidarite, peut-être même encore l'époque Kyonite qui a précédé. Ce qu'on constate, c'est que ces personnages représentés de profil n'ont pas la tête épouvantable des seigneurs eftalites qui les arborent sur leur monnaie avec leur crâne en pain de sucre. Donc on est peut-être à une période antérieure. Voilà. Mais enfin, on voit donc une aristocratie chasseuse qui avait probablement une grande capacité d'intégration des nouveaux venus, notamment des nouveaux venus de la steppe. Et il y a d'autres documents que je vais vous montrer ensuite qui corrobore cette impression. Malheureusement, le dessin n'a pas été très bien fait. Il a été fait, en fait, c'est toute une histoire. Ces peintures ont été découvertes en enlevant un plaquage. Et elles étaient en très mauvais état. Les fouilleurs, à ce moment-là, n'avaient aucune espèce de moyen de les sauver. Et la mission dont je m'occupais, donc la mission archéologique de Samarcande, a pris en charge au moins financièrement l'exécution de relevés pour qu'il reste quelque chose. Et les relevés ont été faits assez vite et on s'est aperçu après, en les publiant, que probablement dans certains cas, ils ont mélangé des traits réels avec des traits d'esquisse. Ce qui donne une perception un petit peu confuse, mais enfin, bon, pour l'essentiel, on comprend de quoi il s'agit. Donc voilà, je dirais, une intégration aristocratique avec des nouveaux venus dans un cadre typiquement aristocratique de scènes de chasse. Alors, je reviens aussi dans le même registre sur un document que j'avais déjà montré, qui est... ce document tout à fait extraordinaire, qui est le sceau d'un souverain kidarite de Samarcande, qui s'appelle, donc c'est datable, à mon avis, du milieu du 5e siècle, juste avant la prise de contrôle par l'Empire Eftalite. Il est roi des Huns Oglars, alors c'est peut-être les Ogours, une des grandes confédérations des Huns. Il est Afshian de Samarcande, titre local, royal, mais en même temps, il est grand roi des Kouchans. Donc, on voit que à ce stade, les nouveaux venus essaient de se rattacher à la légitimité impériale des dynasties qui les ont précédées. Ça, c'est quelque chose que les Eftalites ne vont plus faire. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ils arborent un type physique totalement nouveau, original et effrayant. Et ils n'arborent plus les titres des anciens souverains. Ils se présentent vraiment comme des gens qui font table rase. Là, avec ces vagues donc ces vagues qu'on peut dire kidarites, on voit qu'il y a une volonté de s'intégrer encore dans les cadres laissés par l'empire précédent, l'empire Kushan. Ça rappelle assez ce qui se passe en Occident exactement à la même époque, où les rois barbares essaient de se rattacher de diverses manières à la légitimité impériale. Ils reçoivent soit ils louent quelques alliances matrimoniales avec des familles issues des derniers empereurs romains d'Occident, soit ils se font décerner des titres par l'empereur byzantin. Je rappelle que Clovis était notre cher bon Clovis était extrêmement fier de son titre de consul de Rome. C'était pour lui, c'était presque aussi important que roi des Francs. Bien. Alors ces gens-là, ces nouveaux venus, donc juste avant les Eftalites, ces gens qui semblent s'assimiler aux aristocraties précédentes, quelle langue est-ce qu'ils peuvent bien parler ? Ils ne nous ont pas laissé de texte. Les monnaies sont libellées dans les langues qu'ils ont trouvées en arrivant, le bactrien, les langues indiennes. Mais les titres qu'ils portent, les noms qu'ils portent, ont plutôt l'air de pointer vers une origine qu'on pourrait dire altaïque. Voilà, proto-turc. Le dernier roi kidarite s'appelle Hunras, et en fait, on a montré que Ras, c'est la transcription du mot turc Han, qui à l'époque n'était pas familier et qu'on a donc pourvu d'une désinence byzantine. Han des Huns, c'est peut-être tout simplement, et ça pourrait être le même personnage, l'équivalent du roi des Huns qui est ici sur le sceau kidarite de Samarcande. Donc là, un oglar, alors orlar, on reconnaît le mot turc oglou, fils. Alors ça peut être les Huns princiers, mais ça peut être aussi les Huns ogour à la même origine, semble-t-il. Ça veut dire les gens de la lignée royale, les fils d'eux. Voilà. Mais en même temps, on avait vu que tout au début, avec la première vague, les Chionites, on a une onomastique également iranienne, avec Grumbates, qui veut dire protégé par Vahram, ce qui n'est pas du tout un nom turc. Donc, vraisemblablement, c'est assez mélangé, mais enfin, malgré tout, plus on avance dans le temps, plus ça a l'air de se turcifier. Bien. Pour l'époque eftalite, maintenant, alors les données textuelles deviennent vraiment nombreuses et diverses, et vraiment très intéressantes. Je vais commenter un certain nombre de ces textes. Mais elles laissent sur des impressions très contrastées. Dans certains cas, ça tend vraiment vers le barbare profond, et puis dans certains cas, ça tend vers le civilisé. Alors, il y a plusieurs manières d'envisager ces contrastes. Est-ce une structure politico-sociale hybride, avec certaines catégories sociales déjà bien acculturées, bien sédentarisées, d'autres qui ne le sont pas ? Est-ce que ça traduit une évolution chronologique ? À mon avis, il y a un peu des deux. Alors, commençons par les témoignages chinois sur le Toharestan, c'est-à-dire l'ancienne Bactriane, la région où les Eftalites se sont d'abord constitués en royaume vers 470, là, dans la partie orientale. Voilà. C'est la chronique chinoise du Beixi, fondée sur des récits d'ambassade. Enfin, ces ambassadeurs, ou ces pèlerins bouddhiques qui faisaient tous évidemment un peu d'espionnage, un peu beaucoup. Et qui ont rapporté ces informations de première main qui sont passées dans les chroniques chinoises. Alors, on a donc le texte plus riche, c'est dans la chronique du Beixi. Il s'agit d'informations qui ont été recueillies dès les premiers contacts des Chinois avec les Eftalites, c'est-à-dire dès avant qu'ils éliminent les Kidarites, dès 456, les premiers contacts, Et ces informations ont ensuite été mises à jour. Ce n'est pas toujours facile de distinguer les étapes. Alors voilà ce que dit ce texte. Suivant leur coutume, les frères ont en commun une même épouse. Si un mari n'a pas de frère, sa femme porte sur la tête un bonnet à une seule corne. S'il a des frères, la femme ajoute à son bonnet des cornes en nombre égal à celui des frères. Je vous ferai remarquer que c'est exactement le contraire de ce qu'on attend dans notre propre culture. C'est le monsieur qui porte les cornes. Ici, c'est la dame. On a d'ailleurs quelques représentations iconographiques, effectivement, de femmes qu'on voit porter des cornes. Alors, je vais revenir sur tous ces détails. Alors, leur troupe se monte à environ 10 000, à environ 100 000. Le problème, c'est que troupe, bon, c'est le caractère chinois bu, qui, dans certains contextes, semble désigner la population, mais dans d'autres cas, c'est la population en armes. Je pense qu'il s'agit en fait ici plutôt de la population en armes. Ils n'ont pas de ville et se déplacent à la recherche des eaux et des pâturages. Ils se font des habitations en feutre. Nous, on appelle ça des yourtes. En été, ils se transportent dans des lieux frais. En hiver, ils vont dans des endroits tempérés. Ils répartissent leurs femmes dans des lieux divers. Et alors là, on voit bien qu'on passe dans un autre registre. Il s'agit du milieu royal, et là, c'est la polygamie qui domine. Alors qu'avant, on nous a parlé de la polyandrie. On va voir comment régler la contradiction. Le roi se déplace en faisant une tournée, il occupe chaque mois un endroit différent. La dignité royale ne se transmet pas nécessairement au fils. Oui, c'est important parce que ça permet de comprendre que cet empire avait en fait une structure multipolaire, avec vraisemblablement, comme on verra plus tard avec ces empires turcs d'Asie centrale, une espèce de condominium dans la fratrie, le pouvoir suprême tourne un peu de branche en branche selon un principe de seniorité, mais qui n'est pas un principe d'hérédité mâle. Ça permet notamment donc de comprendre le statut de ces souverains heftalides du Gandhara, d'Inde. Les numismatiques de Vienne se refusent à y voir des heftalites parce qu'ils considèrent que les heftalites, ils n'étaient pas là, ils étaient en Asie centrale. Mais en fait, il s'agit vraisemblablement de branches cadettes à qui on a délégué le pouvoir. Bien. Quand un homme meurt, quand il est riche, on fait une sépulture avec des pierres amoncelées. S'il est pauvre, on fait un trou dans le sol. On met dans la tombe tous les objets qui étaient à l'usage personnel du mort. Là, on voit bien, c'est la tradition stépique des kourganes. Hein, il y en aurait certainement à fouiller dans le cœur historique de l'Empire heftalite en Bactriane orientale. Ça n'a pas été fait, sauf un, je crois. On a trouvé une monnaie byzantine, d'ailleurs, en or. Mais certains ont été fouillés dans le Pamir par Lidvinsky, et ça confirme l'information. Ces gens sont violents et braves et sont bons guerriers. Ça, c'est ce qu'on trouve absolument partout dans les notices sur les heftalites. Alors, le pèlerin Sangyun, dont j'avais parlé, donc parce que c'est lui qui a eu affaire au sinistre Mihirakula à la frontière du Cachemire, vers 520, il a traversé le cœur de l'Empire heftalite en arrivant de Chine. Alors voilà ce qu'il nous dit. Au début du 10e mois, ils arrivèrent dans le royaume des heftalites, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Toralestan, la Bactriane. Les champs cultivés y sont fort nombreux. Les montagnes et les marais s'y étendent à perte de vue. Ça, c'est un bon résumé géographique de la Bactriane, où il y a pas seulement des oasis, mais vraiment des plaines très très riches, densément peuplées, puis à côté de ça, des zones désertiques, des piémonts de montagnes, etc. Les heftalites ne demeurent pas dans des villes murées, c'est dans un camp mobile qu'ils ont le siège de leur gouvernement. Le roi étend pour lui une grande tente de feutre qui est un carré de 40 pieds de côté. Tout autour, les parois sont faites en tapis de laine. On a l'impression de lire les descriptions des envoyés occidentaux à la cour du Mongol au XIIIe siècle. L'épouse principale du roi porte sur la tête une corne qui est longue de 8 pieds. Donc elle a qu'un mari, évidemment. Voilà. Ce qu'on peut commenter de ces textes. Vraisemblablement, La notice du Beishi, et ce que nous dit aussi Song-Yoon, se rapporte pas à la totalité de la société heftalite. Ce sont les gens avec qui les envoyés chinois ont eu surtout affaire. C'est-à-dire que c'est le sommet de la pyramide sociale. Ce sont les souverains qui ont gardé le plus longtemps les habitudes ancestrales de vivre sous la yourte, de vivre dans les pâturages, etc. C'est une vision, c'est probablement une image partiellement archaïsante de ce qu'était cette société où il devait y avoir. On sait que par ailleurs, il y avait des éléments qui s'étaient urbanisés. Les Heftalites sont probablement, comme leurs prédécesseurs, issus de cette grande migration qui est sortie de l'Altaï vers 350-370, mais ils sont restés dans la coulisse pendant un siècle, pendant que ceux qui tenaient le devant de la scène, c'était les Kyonites, les Heftalites, etc. Et donc, ce qu'on peut penser, c'est que pendant ce siècle, ils ont commencé à s'acculturer. Alors, la question de la polyandrie, polygamie, on voit que le milieu dirigeant est polygame. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de polyandrie, par ailleurs, où les femmes épousent plusieurs maris ? Attention, il s'agit uniquement des frères. C'est pas de la vraie polyandrie, c'est une forme étendue du lévirat. Pendant longtemps, ça a amené sur une fausse piste concernant les origines des Heftalites, notamment nos collègues japonais, qui ont constaté que ces habitudes, ces mœurs polyandriques, on les trouve où à l'époque moderne ? On les trouve dans l'Himalaya. On les trouve au Tibet. Bien. Et c'est donc de là qu'ils ont fait sortir les Heftalites. Mais alors, ne voilà-t-il pas qu'il y a 20 ans, on découvre dans les archives bactriennes du royaume de Robe un contrat de mariage polyandrique, où une femme épouse plusieurs frères. Et ce contrat est de 333. C'est-à-dire qu'il est antérieur à toute invasion nomade en bactriane. Ce que ce contrat nous montre, c'est que la polyandrie n'est pas une coutume que les envahisseurs nomades ont apportée avec eux, c'est une coutume que possédaient certains de leurs sujets, et les informateurs chinois n'ont pas fait la différence. Voilà. Alors, bon, cette polyandrie rurale qu'on voit apparaître dans ces documents de Robe, ça s'apparente plutôt typologiquement, disons, de la polyandrie de populations pauvres et montagneuses. C'est typique, ce genre de coutume est typique des zones où, par exemple, où les hommes sont souvent absents. Alors, c'était le cas du Mzab, dans le sud de l'Algérie, parce que là, c'était des sociétés de commerçants. Les hommes étaient toujours partis sur les routes. Donc, il fallait bien assurer la continuité de la famille. Alors, la fille épousait en fait tous les frères, et les enfants qui naissaient étaient réputés être ceux de l'aîné. Bien. C'est aussi des coutumes de régions où la terre est rare et morcelée, et pour éviter la dispersion des héritages, la femme va épouser plusieurs frères à la fois. Mais en tout cas, ça n'est pas du tout une coutume. C'est pas du tout une coutume qu'on trouve dans le milieu steppique. Et ce ne sont pas les envahisseurs qui ont amené ça avec eux. C'est quelque chose qu'ils ont trouvé. Donc, ça nous met en garde sur parfois l'utilisation qu'on doit faire de ces sources chinoises, qui, d'une part, ont un biais. Elles ont un biais sociologique, c'est qu'évidemment, elles s'intéressent aux gens qui intéressent les envoyés chinois, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir. Et en même temps, la tendance de ces sources chinoises, c'est d'attribuer à l'ethnie dominante tout ce qu'on observe dans le pays, mais qui peut être aussi lié au substrat local. J'ai dit que les Heftalites ont émergé. On les voit d'abord émerger en Bactriane orientale vers 457. Ils se sont, à ce moment-là, semble-t-il, déjà constitués un petit État, parce qu'ils envoient déjà des ambassadeurs en Chine. Visiblement, ils veulent des alliés pour liquider les Kidarites qui tiennent encore l'essentiel du pays. Et au même moment, ils interviennent dans une querelle de succession sur le trône des Sassanides. Alors, ça paraît curieux, parce qu'ils ont quand même l'air d'être très loin. Mais en réalité, si on sait que le prétendant qu'ils ont soutenu, Péroz, celui qui va gagner, était à l'époque gouverneur du Sistan, c'est-à-dire qu'il s'étendait vraiment jusqu'à Kandahar, enfin, c'était tout ça, et qu'eux, ils étaient par là, par les cols de l'Hindou Kouch, ils avaient la possibilité d'envoyer des troupes. Donc, ils pouvaient aller pêcher en eau trouble. Et bon, au début de son règne, il est évident que Péroz s'est appuyé sur les Eftalites. Ensuite, il les a aidés à déloger les Kidarites de Bactre. Bon, les Kidarites ont dû rester un peu plus longtemps du côté de Samarcande. Et puis, les Sassanides vont beaucoup s'en mordre les doigts quand ils vont se rendre compte à qui ils ont confié les clés du pouvoir à l'Est. Pour revenir sur les descriptions, terminer sur les descriptions chinoises, voilà, il y a un détail intéressant. Alors voilà, dans la mise à jour qui a été faite au moment où les Eftalites vont cesser d'être... leur grande période impériale vont être dominées par les nouveaux envahisseurs turcs sans pour autant cesser d'exister. Là, on nous dit que le roi réside dans une ville qui a plus de 4 km de côté, la ville de Badian. On a essayé de l'identifier. C'est pas Bactre, c'est peut-être Kunduz. Actuellement, on en débat. Mais ce qui est intéressant, il s'y trouve beaucoup de temples et de pagodes qui sont tout ornés d'or. Alors, pagode, on voit que après un siècle de pouvoir, bien que l'affreux Mihirakula nous dit-on, ait anéanti le bouddhisme en Inde, ils ont fini par tolérer le bouddhisme dans leur capitale. Mais à côté de ça, il n'y a pas que le bouddhisme, il y a des temples. Parce que les temples, c'est la religion locale, c'est-à-dire la variante centra-asiatique du zoroastrisme qui s'exprime dans des temples. Donc voilà, on a vu des témoignages qu'on avait sur leur installation en Bactriane. Alors on a aussi des témoignages intéressants sur ce qu'ils font en Sogdiane. Donc la Sogdiane, c'est pas de là qu'ils sont sortis. Ils l'ont, semble-t-il, conquise, peut-être au bout de 10-20 ans. Il y a une hypothèse récente par Étienne de la Vessière que je trouve intéressante, c'est que en 479, c'est-à-dire que là, on est 12 ans après le moment où ils ont pris Bactre et éliminé les Kidarites, en 479, la Sogdiane n'envoie plus d'ambassade sous son propre nom en Chine pendant quelques temps. Ce qui peut laisser penser qu'à ce moment-là, les ambassades, bien entendu, les gens de Samarcande continuent à envoyer des ambassades, mais comme leur pays est passé sous le contrôle des Eftalites, leurs ambassades ne peuvent plus s'annoncer à la cour de Chine comme ambassade de Samarcande. Elles doivent s'annoncer comme ambassade des nouveaux maîtres. Donc, à ce moment-là, on ne les distingue plus. Très peu de temps après, 484, donc j'ai dit que Péroz s'était beaucoup mordu les doigts d'avoir favorisé l'émergence des Eftalites au début. En 484, il meurt au combat contre eux en essayant d'envahir leur territoire avec, nous dit-on, 7 de ses fils, une grande partie de la noblesse. Et vous allez voir dans quelles circonstances incroyables s'est produit ce massacre. Et à ce moment-là, le roi Eftalite qui l'affronte s'appelle Archundar. Archundar, c'est un titre sogdien. Ça veut dire, c'est un des titres qui veut dire roi en sogdien. Ce qui montre que doit y avoir le cœur du pouvoir s'est peut-être transféré au nord. Il y a peut-être, moi, ce que je crois plutôt, c'est que encore une fois, c'est un pouvoir polycentrique. Et celui qui a mené le choc contre le roi sassanide, c'est celui qui à ce moment-là était à Samarcande. Ça, il n'empêche que donc, d'autres souverains tout aussi heftalites que les autres, ceux qu'on a vus en Inde, règnent au même moment. Alors, quelque chose d'intéressant qu'on voit à la fois en Sogdiane et dans d'autres régions de l'Empire, c'est une propagande artistique qui montre à nouveau, de manière beaucoup plus claire que ce qu'on avait vu avec la peinture de Djartépé, une entreprise de fusion des aristocraties. Alors, vous avez là un plat extraordinaire qui a été trouvé dans le Swat, région au nord de la vallée du Kaboul, actuellement au Pakistan du Nord. Il se trouve actuellement au British Museum. Alors, voilà une partie du plat. En fait, on voit quatre rois chasseurs. Voilà. En voilà un, en voilà deux, en voilà trois, en voilà quatre. Et alors, vous voyez tout de suite que ces rois chasseurs, ils ont des équipements assez identiques. Hein. L'arc à double courbure, l'arc composite qu'on voit formé de lamelles à double courbure, qui avait un énorme pouvoir de détente, la longue épée, la très longue épée pendant aux côtés, etc. Mais ils n'ont pas les mêmes têtes. Et ça, c'est volontaire. On a bien voulu nous montrer quatre rois qui chassent ensemble, mais qui ne sont pas de la même origine. Voilà, quand j'ai commenté ce plat, j'ai dit, enfin, c'était dans un article en anglais, j'ai dit, ils ne sont pas en speaking terms, ils sont en hunting terms. C'est exactement ça qu'on veut nous montrer. Alors, il y en a un, celui-là, il a vraiment le crâne heftalite. C'est un heftalite, je pense que c'est un heftalite des débuts. Voilà. Mais celui qui est ici, avec sa chevelure frisée, ça a l'air d'être un local. Ça a l'air d'être un indien du Nord-Ouest. On a des sceaux de la même époque qui inscrits en indien qui montrent ce type de portrait. Et alors, voilà, en voilà deux autres qui ont des couronnes imitées, déformées des couronnes sassanides du 5e siècle, avec les deux ailes ici, la lune, le croissant de lune, le soleil, etc. Il y en a deux. Et en fait, c'est ce que portaient les derniers Kidarites qui frappaient des monnaies dans la région. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les anciens maîtres du pays n'ont pas été anéantis, ils ont été vassalisés, intégrés dans une nouvelle structure politique. Ça, c'est vraiment le message de propagande que délivre ce plat. Alors, il y en a un autre qui, lui... Il est sogdien, celui-là. Il a été fait en Sogdiane. Il est à l'Ermitage. Voilà un couple banquetant. Alors, ce sont des heftalites, tels que les Chinois nous les décrivent. Ils étaient très frappés d'une chose, c'est que les émissaires chinois étaient très frappés d'une chose, c'est que les heftalites ne cachaient pas leurs femmes. Et que, quand ils étaient reçus par un prince local, ils étaient toujours reçus par le couple royal. Alors voilà, les deux, avec le manteau, ça c'est la mode locale sogdienne, avec le caftan, avec un pan dégagé sur la poitrine. Elle fait un geste de bon augure, voilà, pendant que son mari, gentiment, lui présente une coupe. Il y a une petite créature flottante en haut. Ça, c'est un symbole bien connu, c'est le symbole de la félicité céleste qui bénit le couple. Hein, alors, ce plat appartenait à un certain Narak, fils de Khun, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intégration, la présence onomastique des envahisseurs huns dans l'aristocratie locale. Et alors, pour corser le tout, le plat est complété par des scènes prestigieuses qui n'ont rien à voir avec le sujet principal, puisque ce personnage nonchalamment accoudé qui tient une massue, c'est Héraclès. C'est-à-dire que on a repris des thèmes, probablement qu'on ne comprenait plus très bien, de l'ancienne vaisselle laissée par les Grecs. Alors ici c'est un masque grimaçant. Oui, oh, c'est le masque de la... C'est pas indien, ça, c'est le masque de la Gorgone. Voilà, il y a aussi par ailleurs des singes, je crois, qui participent au banquet. On a fait une œuvre composite pour flatter... Je pense que le message qui est là-dedans, c'est que monsieur et madame sont des gens cultivés. Et donc, ils s'entourent toujours d'un décor qui remonte à un passé qu'on savait encore prestigieux, qui était le passé hellénistique de l'Asie centrale. Mais eux, ils sont dans leur costume, non plus stépique, mais le costume sogdien qu'ils ont désormais arboré. Et il s'appelle donc Narak, fils de Hun. L'ancêtre, eh bien, c'était un Hun. Alors, un Kidarite, un Kionite, un Nephtalite. Voilà. Alors, un témoignage très intéressant, mais maintenant byzantin, ça vient de l'autre côté, est celui de Procope, vers la fin de l'Empire Nephtalite. Alors, c'est un son de cloche très très différent du son de cloche chinois. Les Chinois ont connu, ont eu contact avec ces gens-là par des ambassades qui, encore une fois, allaient voir le souverain dans son environnement stépique. Voilà. Les Byzantins, le contact qu'ils ont eu avec les Nephtalites, c'est à l'armée. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a eu donc la défaite cuisante des Sassanides en 484, dont je vais être amené à reparler, et puis un accord de paix qui fait que les Nephtalites, à un certain moment, ont servi dans les armées byzantines. Des contingents Nephtalites ont servi dans les armées byzantines, dans les armées Sassanides, contre les Byzantins. Et Ménandre est un clerc de la cour qui, par ailleurs, a travaillé dans l'entourage immédiat du grand général byzantin Bélisaire. Et donc, c'est à cette occasion qu'il a vu des Nephtalites. En 502, il y a un nouveau siège sassanide à Amida, Diyarbakır. Le même endroit où Ammien Marcellin avait vu les Chionites, Procope les a vus à cet endroit-là, et puis ensuite il y a eu divers affrontements, échanges d'ambassades, etc. Donc voilà alors la perception que Procope a sur les Nephtalites. Vous allez voir, c'est très très différent de ce que nous racontent les Chinois. Les Nephtalites sont de la race des Huns, par la réalité comme par le nom. Cependant, ils ne se mêlent avec aucun des Huns que nous connaissons, car ils occupent un pays qui ne leur est pas mitoyen ni même très proche. Ils ne sont pas nomades, comme les autres peuples huns, mais depuis longtemps, ils se sont établis sur de bonnes terres. Pas du tout ce que nous racontent les Chinois. En conséquence, ils n'ont jamais fait d'incursion en territoire romain, sauf en compagnie de l'armée perse. De tous les huns, ils sont les seuls qui ont le corps blanc et une allure qui n'est pas laide. Ah, il n'a pas vu les mêmes que... Il n'a pas vu les mêmes que ceux-là. Hein. Ouais. Bon. Ou alors, les choses avaient évolué. Je penserais plutôt ça. Ils sont gouvernés par un roi, et comme ils sont un état de droit, en grec, politeian enomon et contes, ils observent le droit et la justice les uns envers les autres, et aussi avec leurs voisins, à un degré non moindre que les Romains et les Perses. J'en parlerai par la suite. Alors, on a un autre témoignage grec par le continuateur de Procope, c'est Ménandre, qui a enregistré... Il se trouve que 20 ans plus tard, les Nephtalites ont été défaits par les Turcs. Là encore, les Sassanides avaient conclu une alliance de revers. Finalement, les Turcs ont envahi l'Empire Nephtalite Et les Turcs ont, dès le début, essayé de nouer des relations commerciales directes avec Byzance en passant par la mer Noire. Ça, ça n'a pas du tout plu aux Sassanides. Et un envoyé des Turcs, qui s'appelle Maniar, mais qui est en fait un Sogdien, arrive à la cour de Byzance en 567. Et là, comme on dirait aujourd'hui, on le débriefe. Qu'est-ce qui s'est passé récemment en Asie centrale? Quels sont ces bouleversements? Alors, voilà, mais Ménandre traduit le dialogue avec l'empereur. Alors, l'empereur demande: vous avez donc soumis tout le pouvoir des Ephtalites? Complètement, répond l'autre. Les Ephtalites vivent-ils dans des villes ou dans des villages? Monseigneur, ce peuple vit dans des villes. Voilà. Et Ménandre est un Sogdien. Donc, il nous montre un État, ce que l'empire Ephtalite était devenu après trois générations, c'est-à-dire un empire qui n'avait certainement jamais anéanti les villes d'Asie centrale. On a même des raisons de penser qu'il a contribué à la réurbanisation et qu'il s'était solidement établi dans les villes. On va voir plus tard dans le cours qu'on arrive à déceler des quartiers Ephtalites dans certaines fouilles. Alors, cette histoire, ils ont une, alors c'est un état de droit. On traduit parfois, ils ont une constitution. Bon. Qu'est-ce que c'est que cet état de droit? On aimerait bien savoir. Il y a deux possibilités. Est-ce qu'ils ont un droit coutumier, ancestral, du type de ce que les Mongols appelleront le yasak? Voilà. Dans l'Empire mongol, il y a deux droits qui s'appliquent parallèlement. Il y a le droit local, dans les parties islamiques de l'Empire mongol, c'est la charia, et il y a le droit du souverain, qui est le yasak. Et selon la nature du litige, selon qu'il implique ou non des Mongols, c'est le droit local ou le droit mongol qui va s'appliquer. Alors, c'est peut-être ça que veut dire, auquel fait allusion Procope. Ça pourrait être aussi, tout simplement, que les Ephtalites ont adopté les normes administratives des pays sédentaires qu'ils ont conquis. On les voit dans les archives de Robe, on les voit prélever des taxes, on voit que les souverains locaux se disent représentants du roi des Ephtalites, représentants du Yabgou des Ephtalites. Alors, est-ce qu'ils ne se seraient pas coulés, tout simplement, dans les normes de chancellerie et d'administration des pays qu'ils ont conquis? Là, c'est vraiment un problème intéressant et pour le moment auquel je ne vois pas de solution. On a plusieurs très forts marqueurs de l'acculturation des Ephtalites. Du point de vue linguistique, toujours la même question. Quelle langue est-ce qu'ils pouvaient bien parler? On a vu que leurs prédécesseurs, vraisemblablement, au niveau supérieur, parlaient une langue turque. Les Chinois ont été bien embêtés quand ils ont écrit sur les Ephtalites. Voilà, le Beixi nous dit « Leur langue d'origine n'est pas la langue des Sogdiens, n'est pas la langue non plus des autres tribus turques que nous connaissons. C'est quelque chose... OK, c'est une langue que nous ne connaissons pas. » Voilà ce qu'ils nous disent. Il y a vraiment un mystère, d'autant plus qu'encore une fois, le nom Ephtalite, on n'a toujours pas d'explication satisfaisante à donner. On croit reconnaître le mot sogdien pour sept, haft, les sept tribus peut-être, etc. Sauf que quand ça ne marche pas phonétiquement. Voilà, ça pourrait être peut-être une étymologie populaire. Alors, selon une autre chronique chinoise, autrefois, le Liangshu, autrefois, il n'avait pas de langage écrit et il notait par des encoches sur du bois. Mais à cause de l'échange d'ambassades avec les pays voisins, ils en sont venus à employer l'alphabet sogdien en utilisant de la peau de mouton comme papier. Ah, on voit bien ce que j'expliquais tout à l'heure, l'adoption des pratiques de chancellerie locale. Alors, ces histoires d'encoches sur le bois, ça pourrait faire penser à un système d'écriture en runes, comme plus tard ce qu'on va trouver avec les Turcs. Qu'est-ce que nous donne l'oronomastique? Les noms qui nous sont transmis sont bactriens ou iraniens au sens large. Voilà, encore à nouveau, peut-être cette strate sarmate iranien nomade. Il n'y a pas de... Bon, Arshunu, le seul nom de roi qu'on connaisse au nord, hein, c'est Arshunwar, qui est en fait un titre royal sogdien. Les rois du sud, Mihirakula, etc. Mihira, on reconnaît Mitra. Kula, on ne sait pas très bien ce que ça veut, ce que c'est. On a l'impression de... Alors, on a dit parfois, peut-être c'est l'ancêtre du Pashtou. Voilà. Comme le Pashtou, on ne sait pas très bien d'où ça sort. Certains profils heftalites ne sont pas sans rappeler certains profils Pashtou. Le défunt roi Zahir Shah n'était pas sans quelques... beaucoup plus, qui était par ailleurs un fort bel homme, avait quelques traits communs. Bien. Alors, il est assez probable que les Pashtous ont incorporé des éléments qui venaient des Heftalites. La conclusion à tirer quand même de cette situation très confuse, c'est qu'il y a dû y avoir une acculturation linguistique dans le siècle qui s'est écoulé entre leur arrivée et leur émergence au pouvoir. Et là, ils se seraient dotés d'une chancellerie locale, ils auraient adopté la langue bactrienne à un degré supérieur à leurs prédécesseurs. Alors, j'ai dit aussi qu'un indice d'évolution politique, c'est l'existence d'une politique fiscale. On a un passage très intéressant dans un des contrats des documents bactriens de Robe, datant de 517. Je cite, la taxe des... c'est quelqu'un qui, en fait, qui s'excuse de ne pas pouvoir honorer des obligations contractuelles auxquelles il avait souscrit. Et il dit, la taxe des seigneurs heftalites sur notre maison était lourde, et je n'ai aucun actif domestique sur lequel nous puissions la payer. Or, exactement à la même date, le pèlerin chinois Song Yun, qui rencontre Mihirakula en train d'essayer de conquérir le Cachemire, nous dit « le peuple n'en peut plus, il laisse entendre que les dépenses militaires sont extrêmement élevées et accablent le peuple. » Donc, on a l'impression de gens à la poigne extrêmement dure. Ce dont il faut tenir compte pour expliquer l'empereur de leurs armées. Alors, on a vu tout à l'heure dans le texte du Beishi qu'on a des chiffres. Hein, on nous parle de probablement 100 000 hommes de troupes. C'est relativement crédible, en fait. C'est relativement crédible. Six siècles avant, quand les Yuechi sont arrivés à la frontière de la Bactriane, on leur attribue 80 à 90 000 archers entraînés. Visiblement, c'est ce que les pâturages de la Bactriane pouvaient arriver à fournir comme hommes de troupe. Alors, maintenant, comment... Oui, alors par ailleurs, on sait qu'à un moment, ils ont envoyé 30 000 hommes aux Sassanides en renfort, donc 30 000 hommes, s'ils avaient une armée de 100 000, c'est de l'ordre du possible. Quand ils vont avoir perdu leur empire, mais qu'ils vont subsister comme petit royaume, il leur restera 5 à 6 000 guerriers, donc tout ça est assez cohérent. Ceci dit, comment extrapoler du chiffre des troupes au chiffre réel de la population? Là, c'est difficile. Y a un article qui va prochainement paraître, très intéressant, par Étienne de la Vessière, dans le GECHO, Journal of Economic and Social History of the Orient, sur estimation de population en Asie centrale au 7e siècle, où il met, notamment, il utilise des recensements chinois qu'on a pour le Xinjiang, et puis pour les parties plus occidentales, Sogdiane, Bactriane, où on n'a pas de recensement, le recensement chinois, il fait des projections, des extrapolations à partir des surfaces cultivées qu'on arrive maintenant à évaluer assez bien avec les photos satellites, la documentation archéologique, etc. Lui, ce qu'il dit, c'est que il faut peut-être multiplier pour arriver à à l'ensemble de la population, il faut peut-être une multiplication de l'ordre de 10. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que quand les Chinois nous donnent des chiffres d'hommes en armes, ça pourrait être des chiffres assez théoriques. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait les tumènes. Ces armées nomades étaient organisées en unités de 100, de 1000, de 10 000. Vraisemblablement, quand les Chinois ont enregistré des chiffres ronds, comme 100 000 pour les Ephthalites, c'est qu'on leur avait dit on a 10 tumènes. Mais ça, c'était des unités théoriques de mobilisation. Quand on a des documents plus précis pour l'époque mongole, on s'aperçoit que ces tumènes dans une unité de 1000 hommes, en réalité, ils s'en présentaient 700, parfois 500. Dans toutes les armées du monde, il y a eu des planqués et des tirs au flanc. Donc, il faut tenir compte. Il faut tenir compte de ça. Du coup, ça amènerait à voilà. Donc, ce sont des données dont il faut prendre en compte. Mais ce qui est certain, c'est que ça nous donne quand même un niveau de mobilisation militaire très très élevé. Alors, les causes, les assises de cette forte mobilisation. C'est, je l'ai dit, donc la pression fiscale, mais c'est aussi tout simplement le gain des victoires. Hein, le gain des victoires. Les victoires sur les Sassanides leur ont apporté le contrôle des provinces orientales, Merv, le Sistan, que n'avaient jamais eu les Kidarites ni les Kionites. C'est la première fois que, véritablement, les Sassanides sont en recul net sur le front de l'Est. Et ça va durer. La perte des provinces orientales, ça va bien durer 50 ans. Bien. Et puis par ailleurs, ils ont saigné à blanc l'État sassanide. Déjà, ils ont fait prisonnier le pauvre Péroz une fois, puis ils l'ont tué, et alors tout ça s'est traduit par l'imposition d'un tribut énorme. Les chroniques laissent entendre. Donne des chiffres gigantesques pour le nombre de dirhems d'argent qui devait être versé. On a l'impression que la majorité de la masse monétaire d'argent émise par l'État sassanide finissait dans les poches des Ephthalites. Eh bien, c'est une impression que les numismates aujourd'hui ont tendance à considérer comme vraie. On constate que, par exemple, on a des émissions massive d'argent sassanide à partir de 476, la première défaite de Péroz. Ça, c'est ce que les numismates de Vienne ont récemment établi. Dans une principauté du Tokaristan septentrional, Tchaganian, pas très loin d'Alverzin Tepe, dont j'avais parlé il y a 2-3 ans, là, on a les archéologues ont fait des décomptes dans les trésors monétaires qu'ils ont trouvés. Plusieurs décennies après la victoire des Ephthalites, quasiment toute la monnaie d'argent en circulation, c'est de l'argent sassanide qui porte des contremarques locales. C'est-à-dire ils n'ont pas eu besoin dans les régions du Nord, de frapper eux-mêmes monnaie. Les Sassanides frappaient monnaie pour eux. Ce qui fait que en Bactriane, en Sogdiane, il y a très peu de monnaie ephthalite à type original. En voilà une. Il tient une fleur. Il a quand même le croc. On voit sa grosse moustache. Là. Bon, la légende n'est pas vraiment lisible. Au revers, c'est l'imitation d'une monnaie sassanide de Péroz reçue en tribu. Ils ont très, très peu. C'est un gros contraste avec les ephthalites du Sud qui, eux, ont émis des types monétaires extrêmement intéressant, original, avec des vrais portraits, etc. Parce que ils ont dû avoir moins accès que les autres à la masse monétaire d'argent extorquée à l'État sassanide. Ceux-là, ils ont vécu sur l'Inde. Ceux de Bactriane et de Sogdiane, ils ont vécu sur la caisse de l'État sassanide. Voilà. Voilà, je vais terminer par une évocation graphique. On continuera un peu sur les Eftalites au cours prochain avant de venir aux données archéologiques. Mais oui, alors ça fait rire, mais en fait c'est très fiable. C'est le livre de notre collègue russe Valéry Nikonorov sur l'armement d'Asie centrale. Alors il s'arrête justement à l'époque Eftalite. Il faut quand même savoir que, bon, ça fait un peu grand guignol, mais toutes les armes représentées sur ces restitutions et toutes les pièces d'archelachement, etc., sont fondées sur une documentation archéologique. Il donne des références à côté qui montrent pour chaque arme représentée une occurrence archéologique réelle. Alors, voilà donc un Eftalite avec son beau crâne là, représenté comme archer, avec la très longue épée que vous avez vue sur les plats que j'ai montrés tout à l'heure. Là, des éléments, ouais, voilà, d'autres, qui sont plutôt des éléments locaux, armés à la légère. Alors, est-ce que c'était que ça, les armées Eftalites ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il devait aussi y avoir, étant donné le caractère multi-ethnique de leur empire, et encore une fois, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la manière dont ils ont visiblement très bien joué sur l'intégration des forces politiques et sociales locales, des villes. Ils ont dû continuer à avoir ces robustes cataphractaires en armure lourde qui, ici, sont donnés comme caractéristiques de l'époque Kushan tardive, d'après l'iconographie, mais qui ont dû continuer à servir dans les armées eftalites, y compris sur des chevaux qui de même avaient des armures. Voilà, je donnerai la prochaine fois quelques détails surtout fondés sur les récits extrêmement détaillés, concordants, de la manière dont les eftalites ont battu les sassanides en 484, c'est extrêmement riche d'enseignements. Et puis, on commencera à aborder la manière dont ces époques troublées, ces phases successives d'envahisseurs, etc., se traduisent au niveau de l'observation de terrain. Les châteaux, qu'est-ce que ça donne sur les châteaux ? Qu'est-ce que ça donne sur le réseau urbain, etc. Voilà, je vous remercie.